suite du paragraphe. Au cours de mon année de philosophie, à la suite de mes études personnelles, de mes nombreuses lectures, une sorte d'illumination intellectuelle et un considérable élargissement d'horizons spirituels difficiles à décrire s'étaient produits en moi. Jusque-là, j'avais vécu et perçu physiquement le monde et la vie sans en rechercher le sens, sans même me demander s'ils en avaient un. Beaucoup, certes, en restent toujours à ce stade. Ils continuent à vivre comme vit une plante, ne demandant à l'existence que les satisfactions et les jouissances qu'elle peut donner, la réussite dans la carrière que l'on a choisie, l'argent que l'on peut gagner ou dépenser, la considération de son entourage. Ils prennent de bonheur le monde tel qu'ils le perçoivent, sans se poser de questions sur ce qu'il vaut. J'avais beau me dire que cela était sans doute les sages, je n'arrivais pas, malgré mes efforts, à les imiter, ni à penser ou à raisonner comme eux. Certains de mes camarades étudiants avaient déjà, à 20 ans, des mentalités de retraités. Ils étudiaient des échelles de salaire. Ils en arrivaient presque à calculer le montant de la pension qu'ils toucheraient dans 40 ans. Leur vie était tracée d'avance. Elle ne dépendait que de la réussite aux examens qu'ils préparaient. Je ne m'aperçus que plus tard qu'il ne s'agissait là en fait que d'habitudes mentales essentiellement françaises, nées sans doute de la manière géométrique et pyramidale selon laquelle l'État français est organisé. Au-delà des institutions, cette particularité a influé non seulement sur les lois, mais encore sur le raisonnement et sur la pensée, laissant peu de place à l'imagination, à l'inspiration, à l'aventure, aux risques et aux changements. Certes, il est difficile de généraliser, mais je n'ai guère rencontré ce travers dans les pays de tradition anglo-saxonne que je devais plus tard fréquenter de plus près. Les études, les diplômes, les examens n'y sont jamais des fins en soi. Ils sont seulement une ouverture sur la vie, un moyen d'enrichissement personnel. Ils ne préjugent pas de l'avenir. Ils ne limitent ni l'horizon, ni les choix. La société, en d'autres termes, n'y est pas stratifiée comme elle l'est en France. Elle y est cependant plus stable. Elle est de cette façon beaucoup plus ouverte au changement, beaucoup moins conservatrice, beaucoup plus souple en un mot. On n'y raisonne pas de la même façon. C'est peut-être dû au fait que les Français ont plus peur de la vie que les Anglo-Saxons et qu'ils sont plus désarmés devant elle, attendant beaucoup plus de l'État que d'eux-mêmes. L'étrange dans cette affaire, c'est que les premiers puissent faire figure d'idéalistes auprès des seconds. Ces choix difficiles, ces choix impossibles, l'inévitable rétrécissement d'horizon qu'ils impliquaient, étaient pour moi reculés par la décision que j'avais prise de m'inscrire au droit et aux sciences politiques. Bien des portes restaient ouvertes. Je cessais rapidement de suivre assidûment les cours de la faculté de droit, dont les amphithéâtres étaient surchargés et que les cours polycopiés et les manuels remplaçaient avantageusement, pour suivre surtout ceux des sciences politiques. Rue Soufflot, comme rue Saint-Guillaume, nos professeurs avaient leur franc-parler. La liberté d'expression dont faisait preuve le plus grand nombre ne manquait ni d'élégance, ni de panache, ni d'esprit. Achille Mestre, notre professeur de droit constitutionnel, qui, en raison des opinions qu'il affichait, faisait de temps en temps l'objet de critiques bruyantes et de chahuts organisés par des groupes de studentiens et studentins d'extrême gauche que la presse et les milieux politiques répercutaient parfois, nous dit un jour après l'un de ces incidents: Monsieur le Président de la République m'a confié un cours de droit politique. qu'il ne s'étonne donc pas que je fasse de la politique dans mon cours. Aux sciences politiques, les études étaient un peu plus tournées vers le concret. Je considérais toujours comme un privilège d'avoir pu y recevoir l'enseignement de maîtres prestigieux et d'esprits hors de pair, comme ceux d'Alexandre Violat, de Aupetit, de Germain Martin, de Romieux, de J. Bardot. Les exposés d'Elia Lévy sur l'histoire des idées politiques étaient des modèles de construction, de rigueur, d'équilibre et de clarté. L'étincelant André Siegfried nous distillait ses cours de géographie économique que nous suivions tous avec la plus grande attention. Je me souviens encore de la présentation de la leçon qu'il allait consacrer au Japon, dont il avait prévu l'extraordinaire essor économique postérieur. Au Japon, messieurs, avait-il commencé, tout est petit. Les îles sont petites, les champs et les jardins sont petits, les arbres sont petits, les femmes sont petites et les hommes aussi. Messieurs, continua-t-il après une pause, avant d'enchaîner, le Japon est un grand pays. Au droit comme aux Sciences Po, je me spécialisais dans l'histoire des idées et des coutumes, l'étude des institutions politiques, administratives et financières, le droit public et constitutionnel qui m'intéressait plus que les arcanes subtils du droit civil. Paragraphe 9. Chaque soir, ou presque, après une journée relativement fatigante qui comprenait 2 heures de train et 1 heure de métro, je retrouvais avec plaisir ma chambre, mon bureau, mes notes et mes livres à Clermont d'Abeur, à Compiègne ensuite. Les jours où je ne me rendais pas à Paris étaient consacrés à l'étude, à la lecture, aux promenades solitaires. Un peu plus tard, à l'escrime, au tennis, aux amours. J'avais quitté Clermont avec regret. Nous y étions une bande de jeunes. La petite ville était pittoresque, campagnarde même, malgré sa proximité de Paris. Au-delà s'étendait la Picardie, ses labours immenses, l'étendue de ses plaines, la largeur de son ciel. Clermont et ses environs, c'était encore l'île de France, ses collines et ses bois, où les jonquilles, on les y appelle les aïeux, et les jacinthes sauvages abondaient. En 1924, à notre arrivée, il n'y avait pas encore l'électricité. Elle ne fut installée que 2 ans après. On venait de supprimer la sous-préfecture dont la garde avait été confiée à mon père. Nous profitions surtout de son grand jardin. La recette des finances où nous habitions était une assez vaste maison à 2 étages, située entre la ville et la gare. 2 énormes pommiers, et des marronniers ornaient son jardin. Sur les 6000 habitants de Clermont, près de la moitié étaient les pensionnaires de l'asile d'aliénés qui s'y trouvaient situés. Ceux d'entre eux qui n'étaient pas dangereux ou asociaux travaillaient en ville pendant la journée, dans les magasins, les maisons ou les jardins. La seule folie du jardinier de nos voisins d'en face, c'était de se croire femme et de se revêtir de jupon. On ne l'appelait que Mademoiselle Rose, ce qui suffisait à le contenter. Naturellement, les docteurs y abondaient. Certains étaient aussi étranges que leurs malades. L'un d'eux interdisait à sa femme et à ses filles de participer à quelque réception ou réunion que ce soit, comme de se servir des poignées de porte avant d'avoir revêtu des gants. Nous le regrettions, car elles étaient jolies, et nous nous demandions qu'à les voir de plus près, alors que nous ne pouvions que les apercevoir de loin. La ville est toute en hauteur. L'église et l'hôtel de ville sont perchés au haut de la colline. On peut gravir cette dernière par des raccourcis, faits d'escaliers de pierre que l'on appelle les grimpettes. Georges Bernanos habitait au haut de l'une d'elles sur la place. Je le rencontrais souvent dans le train de Paris. Malheureusement, je ne lui ai pas souvent parlé. Le voyage est en première et moi en seconde. Il venait de publier Sous le soleil de Satan, un de ses romans les plus connus, il ne se mêlait guère à la vie de la petite ville qui le connaissait à peine. Compiègne est plus riche et plus grande, avec le château de l'impératrice Eugénie qui s'ouvre sur le lointain horizon de l'avenue des Beaumont, troué lumineux dans la luxuriante splendeur de sa forêt, avec l'architecture médiévale de son hôtel de ville, de l'abbaye Saint-Corneille et de quelques-unes de ses églises. Au moment où nous nous y sommes installés, vers le milieu de 1928, ce n'était encore qu'une ville peu peuplée, à l'atmosphère calme, où la vie sociale était agréable, l'air pur, les promenades infinies. Mais déjà, la proximité de Paris l'a tuée. Elle commençait à devenir la ville dortoir qu'elle est plus ou moins devenue. De Creil à Paris, tout au long de la vallée de l'Oise, il n'y a plus guère aujourd'hui qu'une agglomération immense autour d'une avenue d'usines et d'entrepôts. Il n'en était pas encore ainsi il y a 50 ans. La maison qui habitait au premier nos appartements et au rez-de-chaussée les bureaux de l'Arcet des Finances était située dans une petite rue derrière l'hôtel de ville. C'était une ancienne maison de maître, le vieil hôtel des Faucigny-Lucinge, bâti en quadrilatère autour d'une cour, pourvu d'un large portail donnant sur la rue, doté au dos d'un grand jardin calme où il faisait bon soleil. Les fenêtres de l'aile que j'occupais au dernier étage donnaient sur la rue, qui était étroite, et sur la cour. Elles n'ouvraient pas sur le ciel et l'espace comme celle de Clermont, mais elles me permettaient, en me penchant un peu, de voir le pignon de la maison de Simone, la douce aimée, sur lequel s'ouvrait sa propre fenêtre. Elle avait 16 ans quand je l'ai rencontrée, et j'en avais 19. Elle avait la douceur, le calme et la gentillesse des grands yeux noirs qui lui éclairaient le visage. Nous nous rencontrions au cours de danse, lorsqu'elle avait de son père l'autorisation d'y venir, au tennis, puis dans des rendez-vous secrets au sein de la forêt, plus tard chez moi. De ma fenêtre, je surveillais la sienne, qui m'indiquait, suivant la position de son volet, si nous pouvions nous rencontrer. De même, la position des miens lui indiquait si elle pouvait venir me retrouver sans risquer d'être aperçue. Elle allait être mon premier amour, sans doute mon seul grand amour de jeune homme, au souvenir duquel je suis toujours resté profondément fidèle et de la perte duquel je ne me suis jamais complètement consolé. Au-delà de tous les orages et de tous les autres attachements passagers, en dépit d'eux, il allait servir de toile de fond permanente à ma vie affective, sentimentale et charnelle pendant près de 10 ans, jusqu'à ce que le mariage de l'un et de l'autre, et le temps qui atténue toutes les peines, m'ait enfin permis de le rouler dans le linceul de pourpre que Renan évoque en parlant de sa foi perdue. Mes relations féminines ont certes été relativement nombreuses, autant que ma vie studieuse d'étudiant, et plus tard fébrile de militant, pouvait me le permettre. Un entourage de jeunes filles et de jolies femmes a toujours flatté mon amour propre, et j'y ai toujours été sensible. Peu de ces relations affectives, cependant, furent réellement profondes, et aucune ne m'a marqué aussi fortement ne l'a fait ce premier amour. Aucun autre n'a conservé dans mon souvenir une place à part avant que le mariage ne vint fixer mon affectivité en la stabilisant. Les amours vénales ou trop faciles ne m'ont jamais intéressé et je n'y ai jamais sacrifié, infligeant parfois à d'autres des déceptions cruelles. J'ai su d'instinct, ma timidité foncière aidant et ma réserve, que ce que l'on peut obtenir trop facilement n'a pas de valeur, quel qu'en soit le prix demandé. Il en est ainsi de chaque chose dans la vie. Pour un homme, comme pour un peuple, le combat et le défi qu'il présente à l'esprit et au sens a plus d'importance et de prix que la victoire. cette dernière, si elle n'a pas été méritée dans tous les sens du terme, n'apporte que des avantages passagers et ne laisse qu'un goût d'amertume. L'amour ne fait pas d'exception à cette règle. Il est lui aussi, à tout le moins si l'on veut qu'il soit plein, inséparable des désirs et des émotions du combat, comme de l'épanouissement qui le couronne et qui lui donne tout son prix. Il n'est ni lui-même ni complet si le cœur, l'esprit et la sensibilité le précèdent ou l'accompagnent, l'appel des sens. Je plains plus que je n'envie les jeunes gens d'aujourd'hui qui vivent dans un monde où les mœurs sont beaucoup plus libres qu'elles ne l'étaient lorsque j'avais 20 ans. À leur jouissance, il manquera trop souvent les exaltations que donne le combat et le couronnement de la conquête seul capable de les décupler. C'est dire que je ne réduisais pas l'amour à la formule qu'on a donnée Champfort. C'est dire aussi que je n'étais intéressé à l'époque que par celle qui méritait le nom de jeune fille et qui appartenait à l'univers qui m'était familier, celles avec lesquelles on pouvait parler d'autre chose que d'amour et échanger beaucoup plus que de simples étreintes. J'avais certes découvert que l'on pouvait jouer avec le cœur, avec le corps des jeunes filles, mais quelle exaltation de les éveiller peu à peu à des émotions nouvelles, de les faire vibrer à l'unisson de celles qui montaient en moi, de pénétrer avec elles dans un monde encore inexploré, mystérieux, celui du cœur comme celui des sens, où l'on pouvait à chaque fois cueillir des sensations, des plaisirs et des sentiments encore inconnus et qui perdent rarement de leur nouveauté. La vie profonde, celle du cœur, celle de l'esprit, de la sensibilité et des passions charnelles, s'ouvrait toute grande devant nous. Elle s'épanouissait comme s'épanouissent les fleurs de l'été et mûrissent les fruits de l'automne. Ni Simone ni moi ne pensions que tout cela risquait de se flétrir. Au cours de toute ma vie affective, j'ai eu l'extraordinaire bonne fortune de n'aimer que qui était attiré par moi. C'est peut-être un profond égoïsme ou un profond orgueil qui m'a préservé d'attachement et d'amour non payé de retour. Certes, je maudissais les contraintes sociales et religieuses, les habitudes et les convenances et tout le réseau d'interdits et de garde-fous invisibles que la société des hommes a toujours érigé autour d'elle avec des modalités diverses aux différentes époques de l'histoire pour sa survie et pour sa protection. Mais ces contraintes mêmes et ces interdits étaient un obstacle de plus à franchir. Ils ajoutaient au défi que pose le déroulement de la vie. À l'époque, je ne pensais guère au mariage. Celui-ci aussi était un choix, et ce choix-là m'apparaissait encore comme devant me fermer trop de portes. Il n'est dans mon esprit aucun doute cependant que j'aurais épousé Simone dès que je serais entré dans la vie active et que ma situation matérielle me l'aurait permis. Mais le destin devait en décider autrement. Très jeune encore, et peu avant notre départ de Compiègne, elle dut subir une grave opération qui lui enlevait tout espoir de maternité future. On le lui avait caché, mais sa sœur Antoinette, connaissant notre attachement réciproque, m'en avait averti. Je n'eus pas au début le courage de le lui dire. Les quelques mois qui suivirent furent pour moi un affreux cauchemar. Je m'en souviens comme d'un crève-cœur prolongé. Mes jours et mes nuits en étaient troublés. Je souffrais profondément, douloureusement. Je saignais de la blessure et de la mutilation qui lui avait été infligée. Je me mis à réfléchir à la vie, à ses peines, à ses joies, et commençait à me demander s'il avait vraiment un sens. Il m'apparaissait que le mariage n'en avait point, s'il n'était pas destiné à dépasser l'union des corps et des cœurs, si l'on ne pouvait, grâce à lui ou même sans lui, se survivre dans ses enfants, en laissant par eux la marque de sa génération sur la terre, dans le seul moyen qui est donné aux plus riches comme aux plus pauvres, aux plus puissants comme aux plus humbles, de perpétuer la vie et de ne pas amoindrir la sienne en la laissant s'enfuir. Je ne pouvais me résoudre à ce nouveau rétrécissement d'horizon qui m'était imposé. Comme un arbre soudain arraché et tombé à terre, entrave tout à coup le chemin. La vie elle-même avait-elle un sens si on ne pouvait la dépasser? Ni Simone ni moi cependant, même après qu'elle eut fini par apprendre la vérité et que nous partageâmes nos interrogations et nos doutes, ne pouvions nous résoudre à nous éloigner l'un de l'autre. Les joies que nous donnaient nos rencontres ne pouvaient nous empêcher de pleurer parfois ensemble sur notre rêve déchiré. Elle me suggéra même d'avoir des enfants d'une autre femme, enfants que nous aurions adoptés. Mais quelle femme digne de ce nom aurais-je trouvé qui aurait pu accepter ce marché? Nous savions que si nous persistions à poursuivre notre rêve, il n'aurait jamais pu atteindre la hauteur où nous l'avions placé. Après notre départ de Compiègne en 1932, à la suite de la nomination de mon père au Havre, nous ne pouvions plus guère nous rencontrer qu'à Paris. Nous le fîmes assez souvent d'abord, volontairement moins souvent par la suite. Par la force des choses, nos rencontres s'espacèrent. Mais il fallut encore quelques années, et après nous être imposé des séparations successives, avant que nous les cessâmes tout à fait, laissant ainsi la vie nous séparer définitivement. Nous ne nous sommes plus jamais revus, et nous ne nous sommes plus jamais écrits. Ce drame intime et ces douleurs secrètes ont profondément marqué la vie affective de mes années de jeunesse. J'ai été passé d'un seul coup à la genoux. Les autres attachements que j'eus pendant le reste de cette période, et dont deux ou trois seulement méritent d'être appelés tels, furent impuissants à me faire oublier le premier, tant la blessure avait laissé chez moi des cicatrices douloureuses et difficiles à refermer. Lorsque j'évoque leurs souvenirs, les beaux visages et les corps souples dont ils ont pris la forme, les joies et les plaisirs qu'ils m'ont réservés, les images de mon premier amour continuent cependant d'effacer les autres. Sa mémoire et le visage de celle qui l'a inspiré apparaissent toujours en gros plan sur l'écran de ma pensée. Ils occupent toujours la première place lorsque j'évoque les premières années de ma vie d'homme. La carrière active de militant dans laquelle j'allais m'engager dans les quelques années qui précédèrent la Seconde Guerre mondiale, fut en réalité l'élément décisif qui allait me permettre peu à peu d'en estomper le souvenir et le regret. Elle me permit aussi de trouver un sens nouveau à la vie. Aujourd'hui, le petit hôtel qui abritait la recette des finances de Compiègne a disparu pour faire place à un immeuble plus moderne. Son jardin calme a été, au sacrilège, transformé en garage. La fenêtre de la douce aimée occupe tout. Il y a longtemps que ces volets ont cessé de s'ouvrir. Ils sont à jamais fermés. Le château tout proche a conservé son harmonie et la beauté de ses lignes. La forêt où les arbres s'élèvent comme des piliers de cathédrale, restent profondes. Ces clairières, bordées de frondaisons touffues, apparaissent de loin comme des trous de lumière que perce le soleil, baignés d'une sorte de vapeur, verdâtre en été, dorée à l'automne. Je peux encore y percevoir, y retrouver, le souvenir de mes jeunes années, et dans les rues paisibles de la ville, percevoir l'écho de rires et de voix que je n'entendrai plus. La deuxième partie a déjà été enregistrée.